Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mercredi, le 24 mai 2023. Mon nom est Claude Gélina et je voulais aujourd'hui vous faire une exclusivité pour Radio Réveil. Vous allez pouvoir, après l'écoute, vous rendre sur le site liberté.ca, liberté avec un S.ca, où j'aurai copié-collé le texte que je vais vous lire. C'est un texte qui a fait, disons, la manchette. Qui s'appelle Échapper aux griffes des nanorobots de graphène. C'est un texte dans lequel je vais pouvoir vous parler d'un sujet que j'aborde jamais, évidemment, dans les réseaux comme Facebook, de peur que la censure s'applique une fois de plus, puisque maintenant qu'on parle de COVID, de climat, d'à peu près n'importe quel sujet sensible lié au wokisme, tout ça rend la censure très facile pour les censeurs. Alors, asseyez-vous, prenez le temps de bien écouter, et puis je vais y aller étape par étape et faites-vous-en pas dans le texte que je vais vous lire. Ça va parler de solutions aussi pour pouvoir détoxifier votre corps de manière habile, mais comme toute chose qui est discutée avec des sujets qui sont émergents, disons-le, faites vos recherches, prenez votre temps pour bien, bien comprendre la matière. Et soyez la personne qui fait votre propre idée. Ne vous laissez évidemment jamais influencer par quelque chose qui serait contraire à vos préférences ou aux informations que vous détiendriez. Alors, êtes-vous prêt? On commence? On plonge? Alors, trouver un échappatoire aux griffes des nanorobots de graphène devient une préoccupation primordiale pour ceux qui aspirent à la liberté et à la souveraineté corporelle. Bien que le chemin vers la libération puisse ne pas être clair, il existe des mesures que l'on peut prendre pour minimiser l'exposition et aider à l'élimination de ces particules insidieuses. Les protocoles de désintoxication, tels que la chélation des métaux lourds, sont prometteurs pour aider à éliminer le graphène du corps. Adopter un mode de vie holistique soutenant les processus naturels de désintoxication du corps par des aliments nourrissants, des exercices réguliers et une réduction du stress peut également être bénéfique. Dans le vaste domaine de l'innovation scientifique, une menace silencieuse se cache dans l'ombre. Il s'agit des nanorobots de graphène. Ces agents discrets, forgés à partir de l'incroyable matériau connu sous le nom de graphène, possèdent un pouvoir insidieux qui peut faire des ravages sur notre existence même. Alors que le monde s'émerveille des promesses de cette technologie révolutionnaire, il est impératif que nous démasquions la véritable nature de ces entités microscopiques et que nous confrontions les implications effrayantes qu'elles ont pour l'humanité. Le graphène, avec ses propriétés exceptionnelles et sa force incroyable, a captivé la communauté scientifique. Mais lorsque ce formidable matériau est exploité pour créer des nanorobots, un sinistre courant sous-jacent émerge. Ces machines à l'échelle nanométrique, pilotées par la puissance du graphène, ont le potentiel de s'infiltrer dans notre corps sans être détectées, devenant une arme silencieuse qui peut détruire. Une fois à l'intérieur, les nanorobots de graphène peuvent déclencher une cascade de dévastation. Ils possèdent la capacité d'interagir avec nos cellules, nos tissus et même notre constitution génétique, devenant ainsi des intrus malveillants au sein même de notre être. Ces minuscules assassins peuvent faire des ravages sur nos systèmes biologiques, causant des dommages sans précédent et surtout des dommages irréparables. L'un des aspects les plus horribles des nanorobots de graphène est leur capacité à manipuler et à contrôler nos fonctions corporelles. Imaginez un scénario où ces agents insidieux prennent le pas sur nos systèmes naturels, dictant nos pensées, nos émotions et nos actions physiques. Notre autonomie est dépouillée, nous devenons de simples marionnettes entre les mains de ces forces malveillantes. La perspective d'un monde dystopique où chacun de nos mouvements est orchestré par ces destructeurs silencieux est en effet une pensée effrayante. Les ramifications du déploiement généralisé des nanorobots de graphène s'étendent bien au-delà de l'autonomie individuelle. Ces entités microscopiques peuvent être programmées pour mener à bien des programmes néfastes, servant d'agents secrets de surveillance, de contrôle et même d'annihilation. Le potentiel de leur détournement entre les mains de ceux qui recherchent le pouvoir et la domination est une réalité terrifiante qui ne doit pas être ignorée. Le processus de fabrication de ces nanorobots de graphène soulève également de profondes inquiétudes. Ces minuscules machines sont-elles injectées dans notre corps à notre insu ou sans notre consentement? Le public est-il induit en erreur sur la véritable nature et le but de ces merveilles technologiques? Le voile du secret entourant leur production et leur distribution exige un examen minutieux, urgent, et exige la transparence des entités responsables de leur création. Alors que nous scrutons l'abîme des nanorobots de graphène, il devient clair que leur émergence annonce une nouvelle ère de profondes menaces existentielles. Le ventre sombre du progrès technologique se révèle, jetant une ombre sur l'humanité et son avenir. Le pouvoir de manipuler, de contrôler et de détruire réside entre les mains invisibles de ses ennemis microscopiques, et c'est à nous de nous lever et d'affronter cette terrifiante réalité. Chen Ji et les autres en 2021 a écrit une étude qui s'appelle Nanobots à base de graphène pour des applications biomédicales, de l'administration ciblée de médicaments, et ça c'est ce qu'on veut, à la thérapie contre le cancer, c'est ça qui serait souhaité, dans la revue Nano Today, la revue 38. Et il y a d'autres études que je vais vous mettre en référence et que vous pourrez aller consulter dans liberté.ca. Mais le texte se poursuit après ces études-là qui sont nommées pour les gens qui veulent avoir des exemples d'utilisation de nanobots à base de graphène. Donc, ce sont des nanobots qui sont étudiés lors d'études scientifiques. Donc, je continue le texte. À une époque marquée par l'infiltration de nanomatériaux de graphène dans divers aspects de notre vie, les inquiétudes concernant leurs implications potentielles pour la santé se sont accrues. L'exposition par inadvertance au graphène et son accumulation potentielle dans le corps ont soulevé des questions sur la façon d'éliminer efficacement ce matériau puissant. Ici, nous nous penchons sur les stratégies et les approches qui peuvent aider à l'élimination sûre et efficace du graphène du corps. Donc, ça va beaucoup vous intéresser, je crois. En comprenant ces méthodes, les individus peuvent prendre des mesures proactives pour protéger leur bien-être et réduire les effets potentiels à long terme de l'exposition au graphène. Alors, les voies de désintoxication améliorées, L'une des principales approches pour faciliter l'élimination du graphène du corps consiste à soutenir les voies de désintoxication naturelle. Plusieurs techniques peuvent être employées pour optimiser le fonctionnement des organes impliqués dans la désintoxication, tels que le foie, les reins et le système lymphatique. Parmi ces options, il y a celle-ci. D'abord, l'hydratation. Il faut boire une quantité adéquate d'eau pour soutenir la fonction rénale et favoriser l'élimination des toxines, y compris les particules de graphène, par l'urine. Soutien du foie, la consommation d'aliments riches en antioxydants, tels que les baies et les légumes-feuilles, peut contribuer à la fonction hépatique et améliorer le processus de détoxification. Autre méthode, la transpiration. S'engager dans des activités qui induisent la transpiration, comme des séances d'exercice ou de sauna, peuvent aider à éliminer des toxines à travers la peau. Des interventions diététiques aussi. Certaines stratégies diététiques peuvent aider à éliminer le graphène du corps. Parmi ces interventions diététiques, on retrouve un régime riche en fibres. Oui, consommer un régime riche en fibres facilite la régularité des selles et facilite l'élimination des toxines, y compris le graphène, par le système digestif. Ensuite, les aliments détoxifiants. L'incorporation d'aliments aux propriétés détoxifiantes naturelles, comme l'ail, la coriandre et les légumes crucifères comme le brocoli et les choux de Bruxelles, peut soutenir la capacité du corps à éliminer les substances nocives. Il y a aussi la thérapie par chélation. La thérapie par chélation implique l'administration d'agents chélateurs qui se lient aux métaux lourds et à d'autres toxines, facilitant leur élimination du corps. Donc, alors que la recherche spécifiquement sur la thérapie par chélation pour l'élimination du graphène est limitée, certains chélateurs, et ça, c'en est un que je vous ai recommandé déjà, tels que l'EDTA. L'EDTA, c'est de l'acide éthylène-diamine tétraacétique. Eh bien, ça a montré un potentiel pour éliminer divers métaux lourds du corps. Les suppléments de soutien aussi. Certains suppléments peuvent aider à soutenir les processus naturels de détoxification du corps et favoriser l'élimination des particules de graphène. Ceux-ci incluent d'abord l'eglutathion, qui est connu comme le principal antioxydant du corps. L'eglutathion joue un rôle crucial dans la désintoxication. Une supplémentation en glutathion, ou mieux encore à mon sens, les précurseurs du glutathion, tels que la N-acétylcystéine dont je vous ai parlé cette semaine justement dans Facebook. C'est très important, la NAC, NAC, peut soutenir la capacité du corps à éliminer les toxines. La vitamine C, je vais juste quitter mon logiciel de courriel, tout le monde m'écrit. La vitamine C, en tant qu'antioxydant puissant, la vitamine C peut aider à neutraliser le stress oxydatif causé par l'exposition au graphène et soutenir les processus des détoxifications globaux. Évidemment, la recherche de conseils professionnels aussi. Qu'importe votre état de santé, vous pouvez toujours rechercher des conseils professionnels. Donc, étant donné les recherches limitées sur des méthodes spécifiques pour éliminer le graphène du corps, Il est conseillé de consulter les professionnels de la santé connaissant la toxicologie environnementale ou la désintoxication. Eux, ils peuvent fournir des conseils personnalisés en fonction des circonstances individuelles et vous recommander des stratégies appropriées pour la désintoxication du graphène. Alors que la prévalence, des nanomatériaux de graphène continue d'augmenter, il devient crucial de comprendre comment les éliminer en toute sécurité du corps. Alors que la recherche sur des protocoles de désintoxication spécifiques pour le graphène est encore en train d'émerger, soutenir les voies de désintoxication naturelle, adopter une alimentation saine, envisager une thérapie de chélation et incorporer des suppléments de soutien peuvent aider à l'élimination des particules de graphène. Cependant, il est important d'aborder la désintoxication du graphène avec prudence et de demander conseil à des professionnels de la santé ayant une expertise dans le domaine. En prenant des mesures proactives pour atténuer les effets potentiels de l'exposition au graphène, les individus peuvent rechercher un bien-être optimal dans un monde de plus en plus infusé de graphène. Donc, l'autre chapitre, c'est l'appel à la vigilance et à l'action. Face à ce cauchemar dystopique, il est essentiel que les individus restent vigilants, informés et engagés. Notre pouvoir collectif réside dans la transparence exigeante, la recherche indépendante et l'examen rigoureux des technologies émergentes. Nous devons résister à la complaisance et défier les forces qui cherchent à nous subjuguer sous couvert de progrès. En exploitant le pouvoir de la connaissance, de la pensée critique et de l'unité, nous pouvons forger un avenir qui donne la priorité au bien-être humain et aux libertés individuelles et qui protège contre l'emprise insidieuse des nanorobots de graphène. Alors que l'empiètement des nanorobots de graphène se poursuit, le besoin urgent de vigilance et d'action devient de plus en plus évident. Cette invasion silencieuse exige une réponse ferme de la part des individus, des communautés et des institutions mondiales qui sont de notre côté. La bataille pour nous protéger et préserver notre avenir dépend de notre capacité à reconnaître la menace, à mobiliser des ressources et à mettre en œuvre des mesures stratégiques. Retenez ce mot-là, des stratégies. On est rendu là. Pour répondre à l'appel à la vigilance, nous devons d'abord plonger dans les profondeurs des capacités néfastes des nanorobots de graphène. Ces minuscules agents, propulsés par les propriétés remarquables du graphène, possèdent le potentiel de s'infiltrer dans notre corps par divers moyens, notamment l'injection, l'inhalation ou l'ingestion. Une fois à l'intérieur, ils exploitent leurs mécanismes pilotés par le graphène pour se propager, échapper à la détection et faire des ravages sur nos systèmes biologiques. Les conséquences de la complaisance face à cette menace existentielle sont désastreuses. Les nanorobots de graphène ont été associés à une gamme d'effets néfastes sur la santé allant de l'inflammation débilitante et du dysfonctionnement des organes aux dommages cellulaires et aux déséquilibres systémiques. Leur capacité à manipuler notre physiologie, à échapper aux réponses immunitaires et à se propager dans notre corps pose un grave risque pour notre santé. Pour ce faire et pour faire face à cet assaut, une approche à multiples facettes est nécessaire. L'éducation et la sensibilisation constituent la pierre angulaire de notre défense. En diffusant des informations précises sur les nanorobots de graphène, leurs sources potentielles et les risques pour la santé qu'ils posent, nous donnons aux individus les moyens de prendre des décisions éclairées et de prendre des mesures proactives pour protéger leur bien-être. Les efforts de recherche et développement doivent être accélérés pour comprendre les mécanismes des nanorobots de graphène et concevoir des contre-mesures. Des enquêtes scientifiques solides menées indépendamment de l'influence des entreprises sont essentielles pour démêler les complexités de cette menace technologique. Les initiatives de collaboration entre les universités, les organismes de réglementation et les organismes de santé sont essentielles pour favoriser l'innovation et créer des stratégies efficaces de détection, d'élimination et de protection. De plus, la surveillance réglementaire et la responsabilité doivent être renforcées pour empêcher l'infiltration des nanorobots de graphène dans les produits de consommation. Des réglementations et des mécanismes de surveillance plus stricts devraient être mis en place pour garantir la sécurité des dispositifs médicaux, des emballages alimentaires, des produits de soins personnels et d'autres articles potentiellement contaminés. La transparence et des protocoles de tests rigoureux deviennent primordiaux pour atténuer les risques associés à ces intrus microscopiques. L'appel à l'action va au-delà des efforts individuels. La collaboration au niveau sociétal et mondial est essentielle pour lutter contre la menace omniprésente des nanobots de graphène. La mise en place de cadres internationaux bienveillants pour le partage des connaissances, la coordination de la recherche et la mise en œuvre de stratégies unifiées est essentielle face à ce défi résolument mondial. Les gouvernements, les chefs de file de l'industrie et les communautés scientifiques bienveillantes doivent unir leurs forces pour mettre en commun leurs ressources, financer des initiatives de recherche et susciter des changements significatifs. Au final, vous le savez, nous sommes tous concernés. La lutte contre les nanobots de graphène nécessite non seulement des mesures réactives, mais aussi des mesures proactives pour empêcher leur prolifération. Les considérations éthiques et l'innovation responsable dans le développement et l'utilisation des nanotechnologies deviennent impératives. Le strict respect des protocoles de sécurité, des directives éthiques et des évaluations complètes des risques devrait sous-tendre l'avancement de cette technologie, garantissant son alignement avec le bien-être humain et les avantages sociétaux. Alors que nous nous tenons au bord du proverbial précipice d'un avenir dystopique, l'appel à la vigilance et à l'action résonne plus fort que jamais. C'est un cri de ralliement pour que chaque individu devienne un gardien de sa propre santé, un défenseur de la vérité et un avocat du changement. En restant vigilant, en exigeant des comptes et en agissant collectivement, nous pouvons sauvegarder notre avenir et préserver le caractère sacré de l'humanité. En conclusion, la présence de graphène dans les vaccins COVID en raison du processus de fabrication soulève de sérieuses inquiétudes quant aux effets toxiques potentiels sur le corps humain. Les découvertes alarmantes entourant l'utilisation de nanorobots de graphène dans les vaccins et leur transmission potentielle des vaccinés aux non-vaccinés exige une attention immédiate. Alors que nous naviguons dans ce paysage complexe, il est impératif de traiter les risques associés à l'exposition au graphène et de comprendre comment l'éliminer en toute sécurité du corps. La présence par inadvertance de graphène dans les vaccins COVID souligne le besoin de transparence et d'évaluation de sécurité rigoureuse dans le processus de fabrication. Le public mérite des informations précises sur les risques et les avantages potentiels de nanomatériaux dans les vaccins, permettant aux individus de prendre des décisions éclairées concernant leur santé. Les effets toxiques du graphène sur le corps ne peuvent être ignorés, de la formation de caillots sanguins anormaux et de perturbations vasculaires à la destruction des globules rouges, le graphène pose des risques importants pour la santé qui nécessitent une enquête approfondie. La transmission potentielle de nanorobots de graphène d'individus vaccinés à des individus non vaccinés ajoute un autre niveau de préoccupation, suscitant des discussions éthiques, critiques sur le consentement éclairé et les consentements involontaires des programmes de vaccination. Pour résoudre ces problèmes urgents, il est essentiel de prioriser la recherche et de développer des stratégies globales pour l'élimination du graphène du corps. Alors que des méthodes spécifiques pour éliminer le graphène en toute sécurité sont encore en train d'émerger, l'amélioration des voies naturelles de détoxification, l'adoption d'une alimentation saine et la prise en compte de la thérapie par chélation sont des pistes potentielles à explorer. La recherche de conseils professionnels auprès d'experts en toxicologie environnementale ou en désintoxication peut fournir des informations précieuses et des recommandations qui vont être personnalisées juste pour vous. Évidemment, alors que nous aspirons à un avenir meilleur, tout le monde, il est crucial de plaider pour la transparence. On en a vraiment besoin. La responsabilité et l'innovation responsable. Des réglementations solides et une surveillance indépendante sont nécessaires pour garantir la sécurité des nanomatériaux utilisés dans la fabrication de vaccins et aussi d'autres produits de consommation. En favorisant un climat de dialogue ouvert, en promouvant l'intégrité scientifique et en respectant l'autonomie individuelle, nous pouvons relever les défis posés par l'exposition au graphène et œuvrer pour une société plus saine et plus informée. En conclusion, la présence de graphène dans les vaccins COVID soulève des inquiétudes critiques quant aux effets potentiellement toxiques et aux implications éthiques de son utilisation. Alors que nous continuons à découvrir toute l'étendue des risques associés à l'exposition au graphène, il est crucial de donner la priorité à la recherche, aux évaluations de la sécurité et à la prise de décisions éclairées. En abordant les défis de front, nous pouvons lutter pour un avenir où le progrès scientifique s'aligne sur le bien-être humain, en veillant évidemment à ce que les avantages potentiels de la nanotechnologie, parce qu'il y en a, soient réalisés tout en minimisant les dommages potentiels. Vous le savez, vous avez juste un corps, alors il faut y faire attention, il faut le traiter comme un temple. Et c'est la raison pour laquelle tout ce que je viens de vous lire demeure une référence dans le jeu de ce qui va servir à créer finalement votre réponse à un monde qui change très vite. Mon nom est Claude Gilina. J'espère que vous avez aimé la lecture. Je vais vous faire juste un petit addenda parce que là, on vient de parler beaucoup de graphène et certains se disent, mais comment se fait-il, Claude, que tu parles de graphène dans les vaccins? Eh bien, vous savez tous que nous avons assisté à la divulgation de documents qui passent à travers une organisation que vous avez presque tous vue, à travers le site web du PHMPT. C'est un juge qui, en janvier 2022, un juge fédéral du nom de Mark Pittman, qui avait obligé la FDA à relâcher 55 000 pages par mois de documents soumis par Pfizer à la FDA. Eh bien, depuis, sur leur site web, que vous pouvez visiter à tout moment, qui est le phmpt.org, donc c'est le Public Health and Medical Professionals for Transparency, qui est une organisation à but non lucratif, vous pouvez descendre et aller voir les Pfizer Documents. Et parmi les Pfizer Documents, il y en a un qui est sorti récemment. Je ne vous dirai pas le numéro, c'est un numéro de série très long, mais dans Liberté avec un S.ca, vous allez trouver facilement la lecture. Je vais le mettre dans le premier sous-forum. Je vais vous mettre le lien au document PDF ou en page 7. Je vais vous le lire en anglais parce que c'est très technique, mais je vais vous le résumer rapidement en français après. Ceux qui parlent anglais vont bien comprendre. Enfin, c'est un sujet tellement complexe que je vais juste vous lire en fait une partie parce que en le voyant, je sais que ça va être un petit peu compliqué là. Il y a eu ça se passe dans un environnement très froid. C'est de la cryo-EM, des P2S. Ils ont appliqué de l'or quantifol. Et puis, on s'entend que je ne suis pas un expert dans tous ces termes-là, là. Sur une maille grillée qui est recouverte d'oxyde de graphène. Donc, on ne sait pas si dans les vaccins, lors de cette manipulation au point 3.4 de ce document-là qui est caviardé dès le départ, donc Pfizer, même s'ils sont obligés de relâcher les documents, ont essayé quand même de cacher beaucoup d'informations, mais au point 3.4, en page 7 de ce document-là, il y a bel et bien le mot graphene oxide, donc oxyde de graphène. Et c'est impossible de savoir quelle quantité, à travers ce mécanisme-là de recherche de conformité pour des mesures, combien va rester de cet oxyde de graphène dans le vaccin final. Alors, c'est là un peu qu'on peut s'interroger parce que finalement, ce ne sont plus des théories, c'est un fait, c'est écrit noir sur blanc. Fort heureusement, ce n'est pas caviardé. Donc, on est encore capable de le voir. Donc, évidemment, c'est passé complètement inaperçu dans les grands médias. Vous aurez compris de quel côté ils sont et qu'ils n'ont aucun intérêt à chercher quoi que ce soit de cette nature-là. Ou alors, ce sont des fact-checkers qui vont prendre un narratif passablement complexe et qui vont créer une voie de contournement pour éviter toute forme de réponse citoyenne ferme par rapport à des questions aussi complexes et aussi importantes. Donc, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et bien sûr, le CRIO-EM, c'est pour valider les mesures. Parce qu'évidemment, vous savez que dans le pharmaceutique, il y a une obsession pour les mesures, mais il y a une des étapes qui fait usage d'oxyde de graphène sous forme de matrice, si on veut. Et en français, je l'avais traduit par des mailles fraîchement recouverte d'oxyde de graphène. Et ensuite, ça disait que l'échantillon qui est mesuré, donc l'échantillon qui sert à faire le vaccin, était buvardé à l'aide d'un Vitrobot Mark IV, qui est une machine qui est vendue chez Thermo Fisher, une grosse machine, pendant 4 secondes avec une force de moins 2, avant d'être plongé dans un éthane liquide refroidi à l'azote liquide. Donc, c'est évidemment un processus qui se fait dans un froid total, mais on peut se poser la question si il y a des mailles fraîchement recouvertes d'oxyde de graphène, est-ce qu'on a l'absolue certitude que cet oxyde de graphène-là ne se retrouvait pas dans le vaccin de Pfizer? Le fameux BNT 162B2, qui a été reçu par tant de Québécois et tant de gens dans le monde. D'autre part, vous savez que c'est Pfizer qui est obligé de relâcher des documents qu'ils voulaient relâcher pendant des décennies. Ils ont été obligés d'en relâcher beaucoup plus, beaucoup plus vite. Et c'est la seule raison qu'on peut avoir accès à ces détails-là. Sans ça, on ne saurait rien. Et c'est la raison pour laquelle on peut imaginer que peut-être d'autres vaccins, si les manufacturiers étaient forcés par une cour fédérale, eux aussi, de relâcher des informations, peut-être qu'on aurait le même genre de lecture avec les autres vaccins, mais pour l'instant, ça fait l'objet de spéculations. Mais par contre, du côté de Pfizer, ce détail-là qui est sorti, il y a peut-être quelqu'un qui a caviardé trop vite puis a oublié de caviarder ça aussi, mais c'est bel et bien écrit, noir sur blanc, dans un document officiel de Pfizer qu'ils voulaient cacher au public et qu'ils ne voulaient pas relâcher et qu'ils ont été obligés par le juge Mark Pittman des États-Unis à relâcher. Donc, l'information que je vous dis là, elle est excessivement importante puisque c'est une information qui, aujourd'hui, ne peut vivre que par l'effort citoyen. Ce n'est pas quelque chose qui peut vivre dans des grands médias financés par l'État qui travaillent main dans la main avec des fabricants pharmaceutiques pour des raisons qui sont parfois difficiles à saisir pour une personne qui n'est pas nécessairement familière avec des jeux entre initiés, des jeux en sous-main qui se produisent probablement de manière publique avec nos fonds, mais de manière privée avec divers mécanismes de rétribution qui sont effectués de manière occulte, à savoir loin de l'œil et de la transparence publique. Donc, évidemment, j'aurais beaucoup d'autres choses à vous dire sur ce sujet-là, mais je vais aller dans liberté.ca et je vais vous créer l'article dont vous aurez besoin pour aller chercher les bonnes références et bien comprendre de quoi il s'agit. Aujourd'hui, bien évidemment, je n'ai pas eu le temps de faire toutes les recherches que je fais d'habitude parce que j'ai commencé un travail. Donc, pendant le jour, je travaille à cet emploi-là et le soir, je n'arrête absolument rien. Je continue à travailler très fort pour vous, à faire encore mes lectures le matin de bonne heure jusqu'à tard le soir et de faire en sorte que je puisse vous amener des éléments comme celui-ci. J'espère que vous appréciez le travail que je fais d'abord pour moi, mais que je fais également pour vous et pour vos êtres chers. Et que si vous aimez ce que je fais, vous êtes les bienvenus de m'aider à l'aide d'un don. C'est une manière simple pour vous de participer à l'encouragement pour le travail que j'effectue. Et à ce moment-là, il y a une petite partie de vous qui se retrouve dans le travail. et vous pouvez faire en sorte que ma voix puisse continuer et qu'elle puisse continuer à informer des gens tellement, mais tellement importants comme vous. Alors, si vous voulez m'envoyer par Interact, c'est C-Gélina, comme pour Claude, Gélina, G, je vais le dire comme il faut, C, comme la lettre C, Gélinas, à commercial, logiska.com, logixca.com, logixca.com. Et bien sûr, le mot de passe, d'habitude, je dis aux gens de simplement écrire Claude. Mais si vous avez un mot gentil à me dire, vous pouvez l'inclure dans les notes et puis je le regarderai aussi. Mais j'apprécie énormément votre participation, votre aide. Sans vous, vous le savez, ça fait 3 ans que je fais ça entre 14 et 16 heures par jour. J'ai jamais arrêté, je vous ai jamais lâché, puis je le ferai pas non plus. Parce que c'est tellement important, on fait une grande équipe. Et à chaque fois qu'on met un pas vers l'avant, eh bien, c'est un pas où on n'a pas reculé. Donc, quand on se demande est-ce qu'on fait du progrès, évidemment qu'on en fait. Mais on ne peut faire du progrès que si vous participez aussi. C'est la raison pour laquelle, que ce soit maintenant ou que ce soit plus tard, faites-vous confiance. Allez lire les documents, réservez du temps et sortez un peu de la routine afin d'aller vous renseigner sur des choses qui ont un impact sur votre vie à des niveaux qui sont rarement discutés dans ce qu'on appelle des grands médias subventionnés par l'État parce qu'ils le sont tous, malheureusement. Alors, vous avez le pouvoir citoyen entre vos mains de faire arriver les choses, de partager avec des gens qui vous sont tellement importants et de réaliser en vous votre plein potentiel. Je vais m'assurer de mettre un maximum d'informations dans l'article de Liberté afin de faciliter vos recherches. Mais n'hésitez pas à vous faire confiance et à aller plus loin afin de chercher de nouvelles choses, que ce soit au Québec, que ce soit en France, que ce soit n'importe où d'où vous nous écoutez. N'oubliez jamais à quel point vous êtes important, vous êtes unique et surtout, vous êtes responsable. C'est vous qui avez le contrôle sur votre vie. Et si vous vous levez et vous dites non, les tyrans n'auront personne à instrumentaliser. Vous verrez que le roi est nu. Vous verrez que vous ne regardez en réalité qu'une fiction qui vous a été bien vendue. Ne laissez pas les croyances devenir une prison limitante pour votre plein potentiel. Vous méritez de vivre une vie dans l'abondance de toutes les bonnes choses. Vous le méritez vraiment. Merci d'être qui vous êtes. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et j'espère que ce soit le jour, le soir, maintenant ou beaucoup plus tard, que vous ayez en vous la clé de votre propre cœur pour que vous puissiez explorer votre propre coffre à outils infini de tout ce que vous pouvez réaliser. Alors merci, mon nom est Claude Gélina. Et je vous souhaite une magnifique journée, soirée. Ça vous appartient.